Amis de YouTube, on est tellement content de vous retrouver. On est avec les amis de Twitch là. C'est la rue de presse du matin et on s'est dit entre nous là que l'un des sujets qui pourrait vous intéresser ce matin, amis de YouTube, eh bien c'est ce dossier dans Libération sur ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit follow, ça fait plaisir. La chaîne YouTube vient de passer les 200 000 abonnés. C'est incroyable. C'est la fête. Alors ça, c'est moins la fête. Mais on va en parler de façon chill, apaisée, parce que c'est un sujet sensible. Parce qu'il y a beaucoup de parents dans le chat. Il n'y a rien de plus difficile qu'une mission de parent. C'est un des plus beaux et un des plus difficiles métiers au monde. Il n'y a pas de bonne éducation. Il y a une bonne éducation pour un enfant donné. Et puis c'est facile de juger, de donner des leçons. Parfois on est parent, puis parfois on a été, enfin, parfois toujours on a été enfant. Si on a reçu une éducation, c'est si compliqué de critiquer l'éducation qu'on a reçue. Mais plein de petits warnings comme ça, parce que je sais que c'est des sujets qui provoquent toujours beaucoup de débats. Mais voilà. À un moment, il faut que collectivement, notre société comprenne que la violence n'a rien à faire dans l'éducation d'un enfant. Alors oui, je connais, je préchote. À chaque fois que je parle de sujet, j'en parle souvent, j'ai des « Oh mais, une petite fessée de temps en temps, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. » Moi, j'en ai pris deux, trois petites, hein. Deux, trois petites gifles, et regardez, ça ne m'a pas traumatisé. Alors. Alors il s'agit pas de juger les générations précédentes, qui n'avaient pas forcément connaissance de toutes les données que nous avons maintenant et des recherches qui ont été faites sur le sujet, notamment sur les conséquences psychologiques pour les enfants. Voilà. Aujourd'hui, on n'a pas ces excuses-là. Aujourd'hui, il y a des recherches qui ont été faites, il y a des médecins qui ont travaillé dessus, il y a des psys qui ont travaillé dessus. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de juger les générations précédentes. C'est trop facile. Il ne s'agit pas non plus de juger les parents, parce que c'est un travail éminemment difficile au quotidien. Mais, sans juger, on va quand même dire des faits. Et c'est ce que fait ce dossier de Libération. Violence éducative ordinaire, qu'est-ce qu'on appelle la violence éducative ordinaire ? Hurler, rabaisser, pincer, tirer les cheveux. Selon la Fondation pour l'enfance, 83% des parents admettent avoir eu recours, au moins une fois, à des violences psychologiques ou verbales dans l'année écoulée, et 37% à des violences physiques. Donc 83% pour les violences psychologiques ou verbales, et 37% quand même de violences physiques, 37% des parents qui admettent avoir eu recours, pas tout au long de l'éducation, mais juste pour les 12 derniers mois, à des violences physiques contre leur enfant. Je préchote aussi un truc un peu, un argument un peu éculé que j'entends souvent dans le chat, c'est « Ah oui, mais alors l'éducation positive, merci, hein, l'enfant roi, laisser les enfants faire ce qu'ils veulent, merci, hein !» Alors l'éducation positive, c'est pas ça. Hein. Quand on parle d'un truc, parfois il faut se renseigner, et il faut lire des livres, par exemple, il y a plein de livres sur l'éducation positive, et l'éducation positive, c'est pas ça. Hein. L'éducation positive, c'est pas l'enfant roi. Hein. Les gens qui laissent faire les enfants ce qu'ils veulent, tout le temps, c'est pas des gens qui ont compris l'éducation positive, ça. C'est juste des gens laxistes. Hein. Un enfant, il a besoin de cadre. Il a besoin de cadre. Qui dit ça ? Le chat, Scufator, dans tous les streams qu'on fait sur le sujet, quoi. C'est un moment quand on dit, oui, il faut pas taper les enfants par le cri dessus. Il y a toujours un gars qui dit, ah oui, mais l'éducation positive L'éducation positive, c'est pas l'éducation permissive, comme le titre à la mode, voilà. C'est pas l'enfant roi. C'est les gens qui ont pas compris. Il y a un entre-deux à trouver. Un enfant, il a besoin de cadre, il a besoin d'autorité, mais une autorité qui passe pas par la violence. C'est ça la difficulté. C'est pour ça qu'il faut pas juger. C'est plus facile d'en parler que de le faire. Il faut réussir à donner un cadre, faire comprendre à l'enfant qu'il y a une autorité, mais sans violence. Et c'est pas facile. Lisons le dossier. Idée reçue, il y a un édito de Damdam Mostafavi dans Libération qui va nous donner quelques pistes déjà. La prise de conscience autour des droits de l'enfant reste un long chemin. C'est un long travail, hein. La prise de conscience autour des droits des enfants reste un long chemin, mais on peut se réjouir qu'elle semble s'accélérer. Donc il y a des changements. Dans les cas dramatiques comme ceux de violences pédocriminelles, sexistes et sexuelles, on l'a vu encore récemment avec les alertes concernant le périscolaire, la parole des enfants est de mieux en mieux prise en compte. Ça, c'est nouveau. Mais cette prise de conscience implique aussi une révolution progressive de la parentalité ordinaire. Donc, il y a les violences, on va dire, exceptionnelles, monstrueuses, pédocriminelles, sexistes et sexuelles. Et là, on progresse, dans la libération de la parole, notamment, et dans les poursuites judiciaires. Mais il y a aussi, dit Libération, une révolution à faire concernant la parentalité ordinaire de tous les jours. On n'élève pas en 2026 les enfants comme on le faisait il y a une génération, et encore moins comme il y a deux ou trois générations. Engagement des pères, partage des tâches au sein du couple, équilibre entre la vie de famille et le travail, les choses bougent. La réflexion sur l'éducation avance aussi à grands pas. Dans le chemin ouvert par la psychanalyste Françoise Dolto, se sont engouffrés des professionnels de la psychologie, des médecins, des neuroscientifiques, pour comprendre ce qui se passe dans le corps et l'esprit d'un enfant qui grandit. Pardon, mais les générations précédentes n'avaient pas ce travail, n'avaient pas ces informations. Leurs travaux conduisent à remettre en cause un grand nombre d'idées reçues, la première étant qu'une certaine dose de violence serait nécessaire pour cadrer les enfants. J'en parle d'autant plus facilement que je sais qu'à chaque fois que j'en ai parlé dans ce stream, je lis pas tous les messages là, je vous lirai tout à l'heure, j'ai des gens qui me disent « Oh Samuel, t'exagères, petite fessée, petite gifle, hein ?» Ça n'a jamais fait de mal. Ah bah si. C'est ça dont il faut prendre conscience. C'est pour ça que j'en parle. Donc, les travaux de ces scientifiques et des médecins conduisent à remettre en cause un grand nombre d'idées reçues, la première étant qu'une certaine dose de violence serait nécessaire pour cadrer les enfants. Non. Voilà, non. En 2019, une loi qu'on a caricaturée, qu'on a appelée la loi anti-fessée, en 2019, une loi salutaire contre les violences éducatives ordinaires, assez largement connue comme la loi anti-fessée, mais qui recouvre un champ plus large, a été votée. Mais 7 ans plus tard, c'est pour ça qu'il y a eu cette enquête de la Fondation pour l'Enfance, les chiffres du baromètre de la Fondation pour l'Enfance montrent que les VEO restent courantes. Donc c'est les chiffres qu'on a vus tout à l'heure. L'atmosphère a néanmoins changé et beaucoup de parents ont conscience que les violences physiques, même mineures, verbales ou psychologiques, sont à prohiber. Après, il y a ce qu'on sait, puis il y a ce qu'on fait. Mais encore une fois, c'est très difficile d'éduquer, d'élever un enfant. Ils le savent sans réussir pour autant à appliquer d'autres méthodes éducatives, eux-mêmes victimes d'une société qui laisse peu de place ou de temps à la réflexion sur la parentalité. Comment créer les conditions pour que cessent ces violences qui n'ont rien d'ordinaire ? C'est d'autant plus important que les études le montrent, moins les enfants sont exposés à la violence, moins ils deviennent des adultes violents. Voilà. Je vous lis un petit peu et on lit ce dossier. Honnêtement, je ne sais pas si je reproduirai pas ce que j'ai vécu, me dit croque, mou du genou, gifle, crie à la maison quand j'aurai un enfant, sans même me rendre compte. Si tu te poses la question et que tu arrives à l'écrire, je pense qu'il y a de fortes chances que, évidemment, tu ne reproduises pas ça. Enfin, je n'ai jamais pris aucune fessée, aucune claque, me dit Miral. Rien, et aujourd'hui, j'ai la trentaine passée, je vis ma vie normalement sans être un délinquant ni avoir jamais basculé du côté obscur. Et aujourd'hui, je compte bien reproduire ça avec ma fille. Perso, j'ai mis un 20-0 à mon neveu sur FIFA, me dit Alastair, pour lui apprendre le respect, pour lui montrer que la vie peut être implacable. Rayou sort de son corps. Rayou, qui est un grand pacifiste, mon ami étoile, est quelqu'un de très doux. Il dit, le jeu vidéo, pas de pitié, quel que soit l'âge de l'enfant, il faut lui apprendre la vie, quoi. Mais je ne pense pas que ce soit une violence éducative. Bien-être, on va en parler de ça dans le chat, tu vois, et ton message est intéressant. J'ai déjà mis une petite fessée à mon fils, et en dehors de la honte, le premier sentiment, c'est le constat d'échec. Le fait de ne pas avoir eu d'autres réponses à apporter, ça m'a marqué. La violence dans le cadre éducatif est effectivement une faillite, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire autrement. Pour autant, je fais la différence avec être battu, et vous allez voir que l'article fait cette différence aussi. Je l'ai vécu moi-même, et l'impact n'est pas le même à mon sens. L'article fait un distinguo entre 37% de Français qui disent que dans les 12 derniers mois, il y a eu violence physique, mais une fessée, et le fait que ces violences sont fréquentes. Récurrente. L'humiliation et la violence verbale a bien plus de conséquences que cette fessée, me dit Bien-être. Moi, j'ai été tapé par ma mère, me dit le studio Geek. J'espère que tu vas bien. Je vous assure qu'à part me laisser des traumas, ça n'a servi à rien. Kazapina, j'ai un enfant de 19 mois en pleine confrontation et qui teste les limites et aussi la gravité. Certaines journées représentent une charge mentale vraiment importante. Quand nous, parents, sommes parfois nous-mêmes épuisés émotionnellement, évidemment, pas de violence ordinaire. Bien sûr, personne ne dit que c'est facile. Hein. C'est intéressant parce que le message de Monasphère illustre aussi l'évolution de la société sur ce sujet. J'ai 3 enfants, j'ai été violenté étant enfant par mes parents. J'ai donné quelques fessées et 2 gifles à mon fils aîné. Quand mon nouveau compagnon m'a alerté, on a beaucoup discuté, pourquoi cette violence, et je n'ai jamais reproduit cela avec lui et mes 2 autres enfants. Témoignage très fort. J'ai vécu les fessées et gifles de mon père, ça n'a apporté que de la crainte envers lui. J'ai l'impression que, quand régulièrement j'évoque ce sujet, je trouve que même la tonalité du chat sur le sujet évolue, quoi. Alors lisons le dossier si vous voulez bien. Donc je rappelle les chiffres évoqués par le dossier de la Fondation pour l'Enfance. Sur les 12 derniers mois en France, 83% des parents admettent avoir eu recours au moins une fois à des violences psychologiques ou verbales, hein, et 37% à des violences physiques. Voilà. Lisons maintenant le dossier. Un nourrisson en pleurs jour et nuit, un enfant qui refuse d'aller à l'école, un ado en quête de conflit, je pense que ça va parler à tous les parents du chat, les nerfs des parents sont souvent mis à rude épreuve au point que parfois, ce sont eux qui peuvent disjoncter, les parents. Et en un quart de seconde, le mot, le cri de trop font voler en éclats les bonnes pratiques et les voilà qui hurlent sur leur progéniture, tels les tout-petits en pleine tempête émotionnelle. Ils peuvent se ranger du côté des 83% des parents interrogés dans le baromètre 2006 de la Fondation pour l'Enfance, publié ce vendredi, c'est les chiffres que j'évoquais à l'instant. Que recouvre exactement ce terme de violence éducative ordinaire ? Le site consacré au développement des 1000 premiers jours de l'enfant, créé grâce aux travaux d'une commission d'experts réunie par le président Macron en 2020, en propose une définition. Qu'est-ce que sont les VEO ? C'est pincer, gifler, donner une fessée, un coup de pied, frapper, secouer, tirer les cheveux, les oreilles. Donc ça, ce sont des définitions des violences éducatives ordinaires, des violences physiques, mais aussi psychiques, 2 points, ouvrez les guillemets, bon, au moment, il faut bien donner une définition, c'est crier, injurier, se moquer, rabaisser, faire peur, menacer, culpabiliser son enfant. C'est aussi ne pas répondre à ses besoins fondamentaux d'affection, de soins, de protection ou l'exposer à des disputes familiales. Alors il est intéressant ce troisième alinéa finalement. La violence éducative ordinaire, c'est aussi ne pas répondre à ses besoins fondamentaux d'affection, de soins, de protection ou l'exposer à des disputes familiales. Le responsable programme et développement de la Fondation pour l'Enfance, Clémence Lisambard, précise l'enjeu de ces violences, c'est l'intention éducative. L'enjeu de ces... Voilà. Quelqu'un disait tout à l'heure... Un jour, j'ai donné une fessée et j'y pense encore, je l'ai mal vécu. Mais La personne disait, mais c'est très différent de la violence quotidienne que je vivais enfant. L'enjeu de ces violences, c'est l'intention éducative, c'est la récurrence et l'intensité. Elle veut rassurer les parents qui lisent ces livres, parmi lesquels peut-être certains d'entre vous, mortifiés en se revoyant perdre leur sang-froid au moins une fois au cours des 12 derniers mois. Hausser le ton parce qu'on est un peu fatigué, ça va. Hurler tous les jours et baser son modèle éducatif sur ce genre de comportement parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on fait, c'est le point clé pour identifier les VEO. Le parent débordé un jour qui a crié ou qui a, vous avez vu la définition, peut-être même rabaissé, fait peur, menacé, culpabilisé son enfant, ou qui, une fois, a donné une fessée et le regrettant aussitôt, on n'est pas dans ce phénomène, quoi. Il reste, constate l'enquête, quand même 36% des parents sondés a toujours légitimé la fessée. Parce qu'il a donné la fessée une fois et le regretté en disant « bon là j'ai merdé, c'est pas ça qu'il fallait faire ». Mais il y a aussi 36% des parents sondés en France qui disent qu'il la légitime, qui disent « c'est bien ». 36% c'est beaucoup. Pendant des millénaires, on nous a fait croire que les enfants étaient des diables ou des bêtes sauvages adressées. Frapper un enfant, c'est un moyen, pour ceux qui n'en sont pas convaincus dans le chat, frapper un enfant, c'est un moyen pour qu'il s'arrête. Ça n'est pas un moyen pour qu'il comprenne. Un enfant sur lequel vous hurlez parce qu'il a un comportement problématique. Les enfants ne sont pas des anges, hein. Un enfant sur lequel vous hurlez parce qu'il a un comportement problématique ou que vous frappez, il va s'arrêter, mais pas parce qu'il a compris, parce qu'il a peur. Ça n'a rien à voir. C'est ce qu'explique un médecin qui s'appelle Gilles Lazimi. Ces violences sont pourtant interdites depuis la loi 2019, dite loi anti-fessée, 40 ans après la Suède. Premier pays à les avoir bannis, son adoption n'a pas été simple. Hein. 3 ans après un premier texte retoqué par le Conseil constitutionnel en 2016, saisi par une cinquantaine de sénateurs conservateurs emmenés par Bruno Retailleau, la députée MoDem du Val-de-Marne, Maud Petit, a de nouveau porté le texte à l'Assemblée. Je vais vous lire, hein, parce que je pense que vous avez beaucoup d'éclairages à apporter sur le sujet aussi. Donc l'élu a dû batailler ferme, même au sein de son groupe, explique-t-elle aujourd'hui. Une baffe, une fessée, tu vas au coin. C'est dans notre culture. Et c'est d'autant plus dans notre culture que c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé déjà ici. Souvent dans le chat, j'ai des gens qui me disent ça, qui me disent « Mais attends, mais moi, j'ai eu des fessées, j'ai eu des baffes et regarde, je vais bien, quoi. » C'est deux choses. C'est, un, légitimer le fait qu'on peut continuer ça. Et c'est aussi, quelque part, ne pas jeter la pierre à ses parents. Ne pas vouloir juger ses parents parce que, parallèlement, il pouvait avoir de l'amour aussi. Et on n'a pas envie de juger ses parents. Et on se dit, mais qui je suis pour juger mes parents? Je suis pas devenu un monstre et quelqu'un de déséquilibré, quoi. Et pour résumer, c'est ce que je dis souvent, tu n'es pas devenu quelqu'un de bien grâce aux coups ou aux violences. Tu es devenu quelqu'un de bien malgré les coups et les violences. Et nous ne jugeons pas les parents et nous ne jugeons pas les générations précédentes, tout simplement parce que les connaissances médicales, scientifiques sur le développement des enfants, les conséquences des violences sur le développement des enfants, on ne les avait pas. Donc c'est important de le dire et de le comprendre. Il ne s'agit pas de juger les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les générations précédentes. Je voudrais qu'on comprenne bien ça. Et du coup, aujourd'hui, on peut changer notre façon d'élever les enfants, de les éduquer, sans que ce soit une critique de ce qu'ont fait les générations passées. Une baffe, une fessée, tu vas au coin dans notre culture. Il a fallu beaucoup de patience, de sensibilisation sur les neurosciences qui éclairent les conséquences des violences, dit cette députée. J'ai expliqué tout ça à certains collègues qui eux-mêmes avaient frappé leurs enfants. Je leur disais, écoutez, vous ne saviez pas. Elle a dû faire face aux railleries des autres parties. En commission, on m'a renvoyé la gifle de François Bayrou, vous savez, infligée à un enfant qui essayait de lui faire les poches en 2002. Paradoxalement, et ça en dit long sur la société, ce geste, il a été salué. Il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, elle était bien, il a eu raison, Bayrou. Hein, » Vous vous rappelez ? J'ai longuement échangé avec lui, avec Bayrou, dit la députée, pour essayer de le convaincre de l'utilité de cette loi. Si le texte qui certifie que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique acte une prise de conscience nationale, il entraîne aucune conséquence pénale. Donc la loi anti-fessée, elle certifie que l'autorité parentale s'exerce sans violence, mais elle ne prévoit pas de conséquences pénales. C'est un texte qui envoie un message. C'est pas un texte qui dit qu'on va aller voir dans chaque foyer comment ça se passe, quoi. Pour qu'il puisse être voté, on m'avait demandé de pas mettre de sanctions, concède la députée, qui vante néanmoins une loi désormais qui est lue lors des mariages. C'est comme ça que ça progresse. Mais aussi inscrite dans le carnet de santé. Aujourd'hui, 69% des parents interrogés par ce baromètre disent être au courant de l'existence de la loi, ce qui est déjà pas mal. Le baromètre 2026 montre aussi une augmentation du nombre de parents qui identifient que crier après un enfant, donner une tape sur la main, gronder un enfant pour un incident dans la culotte, le bousculer, c'est une violence. Je vois plein de messages intéressants, j'arrive pas à les lire tous, mais je m'arrête pour lire quelques messages parce qu'ils sont vraiment très forts. Victime de violences psy et physiques ordinaires de la part de ma mère étant petite, je dépense des milliers d'euros de psy par an pour essayer de me sortir des schémas toxiques que ça m'a inculqués. Ça me coûte beaucoup d'argent et de temps, j'ai l'impression qu'on m'a volé mon temps d'enfant et maintenant mon temps d'adulte. J'ai été tabassé et insulté par mes parents pendant toute mon enfance, j'ai grandi en les haïssant. Aujourd'hui, j'ai du mal à avoir le moindre sentiment d'amour ou d'affection, j'ai peur de ressembler à mes parents. Mon père est de 1946 et il m'a eu en 93. Il a été très dur, voire violent en comparaison de notre époque. J'ai du mal à lui en vouloir car il a eu également une éducation très sévère, ce qu'il a sûrement dû reproduire. C'était une autre époque, mais je n'ai pas envie de reproduire cela, mais j'ai quand même envie que mes enfants aient une bonne éducation. Mes parents m'ont mis beaucoup de baffes, mais ce qui me rend fou aujourd'hui, c'est que j'ai 30 ans passés et que quand je leur en parle calmement, ils nient tout en bloc. Bon, c'est ce qui est classique. Hein. Or, je me souviens de conversations avec des camarades qui me demandaient qui te frappe le plus et je répondais ma mère plus souvent et mon père plus fort. J'aimerais tellement partager ce que font des violences très importantes, mais même en face d'un psy, j'ai jamais pu donner les détails. Aujourd'hui, 30 ans plus tard et bientôt cadrage, j'ai toujours aussi mal tous les jours. Donc, il y a les études, les recherches des médecins, des scientifiques, mais la simple lecture de ces quelques messages que j'ai pris au hasard montre bien les conséquences de la violence dans le cadre de l'éducation. Donc, 69% des parents aujourd'hui français connaissent la loi. Pour autant, depuis notre premier baromètre de 2022, explique la Fondation pour l'enfance, ils sont toujours aussi nombreux à pratiquer ces violences éducatives ordinaires. Pour Gilles Lazimi, la loi symbolique ne suffit plus. Il faut pénaliser à celle le médecin, car 75% des maltraitances commencent par ces violences éducatives ordinaires. Signant encourageant, la Cour de cassation a rejeté le 14 janvier l'existence d'un prétendu droit de correction invoqué 2 ans plus tôt par la Cour d'appel de Metz pour relaxer un père de famille accusé de violence sur ses 2 fils. Droit de correction n'existe pas. Hein. Ce relent archaïque persiste aussi chez certains représentants de l'État. Le 3 juillet 2023, une semaine après la mort de Naël Merzouk, le préfet de l'Hérault de l'époque, Hugues Moutou, réagissait à la radio à des violences urbaines en ces termes. Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée, mais de vous à moi, dans le cas notamment de pillage et de violence, la méthode c'est quoi? C'est 2 claques et au lit, c'est ce que faisaient nos grands-parents. L'ancien préfet pourra se reconnaître dans les 40% des hommes sondés qui estiment que certains enfants ont besoin de punitions corporelles. 25% des hommes interrogés en France aujourd'hui disent que, c'est 40% des hommes aujourd'hui estiment que certains enfants ont besoin de punitions corporelles contre 25% des femmes qui identifient davantage leurs conséquences négatives et le risque de séquelles. Alors comment se défaire de cet héritage qui a un héritage culturel, qui a un héritage familial? Pour Gilles Lazimi, il n'y a pas de métier plus dur qu'être parent, alors ça oui, et c'est le seul où on n'a pas de formation, on pense que c'est inné, que c'est facile, mais c'est faux. La majorité des parents interrogés réclament davantage d'informations sur la parentalité, notamment concernant le développement de l'enfant, la compréhension de ses comportements, la gestion de ses émotions. C'est tellement difficile de comprendre un enfant. Pourquoi il pleure, pourquoi il crie, pourquoi il se comporte mal. C'est pas, pour paraphraser Simone de Beauvoir, on ne naît pas parent, on le devient. C'est un travail de tous les jours. C'est difficile. Hein. Ce manque de connaissances laisse les idées reçues prospérer. Enseignante chercheuse en psychologie du développement, Olivia Paul prend la notion de caprice, par exemple. Elle reste ancrée dans les mentalités, alors que la régulation des émotions ne se consolide qu'à partir de 6 ou 7 ans. Donc parler d'un caprice, d'après cette psy, avant 6 ou 7 ans, ça n'a pas de sens. Neuropsychiatre et grand nom de la petite enfance, Boris Cyrulnik, alerte également sur les répercussions de ces violences éducatives ordinaires. Elles sont bien plus délabrantes que l'on croyait. Si ces traumatismes développementaux sont quotidiens, donc on parle de violences quotidiennes régulières, la petite potière nous dit aujourd'hui, quand je confronte mon père qui a été violent, il soutient qu'il ne nous a jamais touchés, mes frères et moi, on a l'air convaincus, c'est encore plus dur que tout. Alors ça, c'est un classique aussi. Confondre De Beauvoir et Dolto. Style purulente, je pense que tu ne connais pas la phrase de Simone de Beauvoir, qui dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Mais peu importe, tout le monde n'a pas lu le deuxième sexe, peu importe. Et le troisième sexe, pour ceux qui s'interrogent, c'est Indochine. C'est pas grave, c'est pas une lecture obligatoire. Quoi qu'elle devrait l'être, mais bon, peu importe. Donc, les conséquences évoquées par Boris Cyrulnik, donc qui est un neuropsychiatre, elles sont bien plus délabrantes que l'on croyait. Si ces traumatismes développementaux sont quotidiens, les substances du stress, dont le cortisol, finissent par abîmer le cerveau et épuiser les glandes surrénales. Et quand celles-ci ne peuvent plus sécréter de cortisol, l'enfant devient hébété. C'est une découverte très récente des neurosciences. Alors, que faire face à ces violences? Il existe des campagnes de sensibilisation, des formations, des guides de secours, pour la plupart proposées par les associations dépendant des subventions, des collectivités territoriales. Bien que multiples, ces initiatives sont peu accessibles, surtout pour les parents dans le besoin. Et pour cause, l'État ne coordonne pas ces projets, ne leur donne pas assez de visibilité. Donc il y a eu la loi, mais les spécialistes de l'enfance disent là, il y a un manque de volonté politique peut-être sur ce sujet aussi. Il faut qu'on reste positif, Martel néanmoins Gilles Lazimi, c'est sûr qu'on aimerait bien que ça change du jour au lendemain, mais forcément ça mettra du temps. Moi je suis persuadé que ça progresse. Hein. Le président de Stop VEO le sait, on a tous un inconscient, des habitudes, des pressions. Il faut aider les parents à les dépasser sans les culpabiliser. Je suis vraiment persuadé de ça. C'est pas un sujet où il faut juger, c'est un sujet où il faut échanger, discuter, convaincre. Juger des parents parce qu'ils n'ont pas intégré ça, parce que c'est difficile, ça ne nous mène à rien. Il faut leur rappeler qu'un enfant ne peut pas comprendre la violence. La plus grande force d'un adulte, c'est de ne pas l'utiliser. Le dossier est un peu plus complet, je vous ai lu ces 2 pages, mais il est un peu plus gros que ça. Il y a notamment des témoignages de parents qui disent comment ils sont amenés à exercer, malgré eux, ou pas, des violences éducatives ordinaires. Je vous lis un petit peu. Vous avez vu, j'ai pris le temps sur ce sujet qui me semblait essentiel, mais quitte à être un peu à la bourre pour après, mais je pensais qu'il fallait en parler. Vous savez, par exemple, un conseil qu'on donne aux parents, jeunes parents, notamment quand ils ont des enfants en bas âge, ça peut arriver. Hein. Quand la fatigue de l'adulte, le travail, les soucis, tout ça, quand la fatigue ou les cris de l'enfant, tout petit par exemple, quand la fatigue de l'enfant, du parent est telle qu'il y a un truc dans le cerveau qui va pas, qu'à un moment, tu sens un truc qui monte. C'est un conseil qu'on donne à tous les jeunes parents. Quand il y a un truc qui monte qui fait que tu sens que tu perds patience, il vaut mieux sortir de la pièce. Il s'agit pas de laisser l'enfant pendant 4 heures tout seul le bébé tout seul dans la pièce, hein. Mais il vaut mieux sortir de la pièce immédiatement. C'est-à-dire que tu poses l'enfant, tu le mets en sécurité, il n'y a pas un endroit où il peut tomber, et tu sors de la pièce. C'est un conseil de base. Tu le sécurises, tu t'assures. Voilà. C'est ce qu'ils nous disent à la maternité, exactement. Voilà, c'est un conseil tout bête. Quand tu sens qu'il y a un truc qui fait qu'il y a de la colère, quelque chose qui monte en toi, tu sors de la pièce. Et si besoin, tu essaies d'appeler quelqu'un pour t'aider, quoi. Je vous lis un petit peu. Voilà, comme le dit Casapina, il vaut mieux un enfant qui pleure, qu'on a laissé un instant dans une chambre, qu'un enfant frappé, secoué ou autre. Casapina nous dit ça m'a sauvé car mon post-partum a été très compliqué. Je suis désolé, si ton gamin de 14 ans vole une voiture, je vais pas rester les bras croisés. Nox, si tu penses que, imaginons que ton gamin de 14 ans vole une voiture, je sais pas si ça t'est arrivé ou pas, mais si tu penses que la solution c'est de le frapper, puisque c'est ça la question, en fait tu n'as pas compris notre débat. En fait. Le fait de le frapper, ça va jamais l'interdire, c'est pas ça qui va l'empêcher de récidiver si c'est ta crainte. Hein. Mais manifestement, ouais, cette simple remarque, simple exemple, je sais pas si c'est quelque chose qui t'est arrivé ou pas, cet exemple montre qu'il y a encore un gros débat à avoir sur le sujet. Garcia me dit, perso, j'ai eu droit à 12 années de harcèlement moral et occasionnellement de gifles de la part du compagnon de ma mère. Depuis, sans être devenu paranoïaque, je suis quand même très renfermé, en état d'hypervigilance quasi permanente, c'est épuisant pour l'esprit. Ce qui m'aide énormément, me dit chaotique route, c'est Reddit. Quand les parents partagent sans filtre les difficultés du quotidien au lieu de jouer aux meilleurs parents, ça aide à se sentir moins isolé, relativiser, se rappeler qu'un enfant est un enfant et trouver de bonnes idées pour mieux gérer. Que dire aussi quand tu confies tes enfants à tes parents, donc aux grands-parents qui ont une éducation différente, c'est difficile de leur faire comprendre aussi. Alors, si on observe les grands-parents d'aujourd'hui, souvent, eux-mêmes ont entendu ces discours, ont réfléchi à ces discours, aux échanges que nous avons ce matin, par exemple. Et souvent, le comportement des grands-parents avec les petits-enfants est souvent très très différent du comportement qu'eux-mêmes avaient avec leurs propres enfants, quoi. C'est-à-dire que les grands-parents aussi, ils évoluent comme la société évolue. Hein. Souvent, hein. Est-ce que vous avez des conseils de lecture pour apprendre à mieux gérer les crises avec les enfants? Alors moi, j'ai pas de titre de livre en tête, La Petite Potière. Je sais qu'il en existe, comme mon épouse en a lu beaucoup. C'est elle qui m'a beaucoup parlé de ces sujets et qui m'a aussi donné des petits tips au quotidien pour comment tu réagissais par rapport aux cris d'un enfant, aux pleurs d'un enfant, aux comportements parfois un peu énervants d'un enfant, quelles sont les réactions idéales, quoi. Pour toujours que l'enfant comprenne qu'il y a un cadre, dire non aux violences éducatives ordinaires, ça n'est pas laisser faire l'enfant ce qu'il veut, c'est faire comprendre à un enfant qu'il y a un cadre, qu'il y a une autorité, donc en tant qu'enfant, il ne fait pas ce qu'il veut, mais sans qu'il y ait de violence. Entendu dans le bus, la mère qui dispute son petit garçon en pointant un type du doigt qui lisait son journal, le pauvre qui avait rien demandé dans le bus et qui dit « Le monsieur va venir t'enlever si tu ne te calmes pas ». Voilà, c'est une erreur gigantesque, c'est-à-dire que tu fais reposer l'autorité sur quelqu'un qui n'est pas à la maison, quoi. Ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien. Oui, c'est le père Fouettard, en fait. Bon, les amis, merci de cet échange qui est très intéressant. Je suis obligé d'enchaîner parce qu'il y a d'autres choses dans l'actualité. On n'est qu'au premier titre, mais ouais, je voulais qu'on prenne un petit peu le temps dessus. Si ça vous intéresse, merci pour tous vos commentaires. Il y en a plein que j'ai pas pu lire parce qu'il y en avait beaucoup. Vous avez un dossier dans Libération. Je remercie nos amis de YouTube qui étaient avec nous sur cette actu ce matin. C'était important de la partager. On enchaîne la suite de la revue de presse. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir le matin sur Twitch. On est là tous les matins, n'hésitez pas à mettre un petit like et à suivre cette chaîne YouTube qui est en train d'exploser, mon Dieu.